Les sciences sont une source inépuisable d'étonnement, de fascination, de découverte ou d'interrogation. Embarquez dès maintenant pour un nouveau voyage au cœur des sciences. L'abeille, véritable cadeau de la nature. Car oui, ces petites bêtes ne sont pas seulement à l'origine du miel que vous avez peut-être dégusté sur vos tartines ce matin. Plus d'un tiers de notre alimentation dépend de leur travail et pourtant, elles sont aujourd'hui gravement menacées à différentes échelles. On va voir tout ça ensemble avec vous, Jean-Philippe Godard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiateur scientifique à Altec. Alors, Jean-Philippe, quand on évoque l'abeille, on pense bien évidemment à l'abeille mellifère, donc Apis mellifera, qui donne une bonne partie de notre miel européen. Mais est-ce qu'il existe d'autres espèces d'abeilles ?
Alors oui, il en existe énormément. Donc l'abeille mellifère fait partie d'une super famille, on va dire, d'abeilles où on dénombre pas moins dans le monde de 20 000 espèces. 20 000 espèces, ça c'est partout sur la planète. En Europe, c'est 2 000 espèces. Et en France, environ 1 500 espèces dénombrées à ce jour. Et l'abeille mellifère n'est qu'un type d'abeille, une abeille sociale, qui vit en colonie. Et il existe de nombreuses autres espèces, soit solitaires, soit sociales, mais qui ne sont pas l'abeille mellifère.
Alors justement, l'abeille mellifère, le miel, comment est-ce qu'il est produit? Quels procédés physiques ou chimiques, ou les deux, sont utilisés pour la production de ce miel?
Alors, le miel, il va avoir deux origines. Alors les abeilles, les butineuses, vont récolter alors, soit le nectar au cœur des fleurs, donc un liquide sucré qui est produit par les fleurs pour attirer justement les insectes pollinisateurs, et également à partir du miella. Alors le miella, c'est un liquide sucré qui est excrété par des insectes de type piqueur-suceur, comme le puceron, hein, qui rejette ce liquide sucré. Les abeilles viennent lécher donc le nectar ou le miella, l'ingurgite, le stocke dans leur jabot pour pouvoir le ramener à la ruche. Et donc le jabot, ça pourrait correspondre un petit peu à notre estomac. Donc on y trouve des enzymes digestives, des choses comme ça, et c'est ce qui va commencer à modifier en fait ce liquide sucré, nectar ou miella, en miel. Alors la butineuse, elle remplit son jabot, une fois qu'il est plein, elle le ramène à la ruche, et là elle va régurgiter ce nectar, qui n'est plus vraiment du nectar, qui n'est pas encore du miel, donc elle le rejette, qui s'est avalé par une autre abeille. Donc il y a un système d'échange donc qui porte un nom un peu barbare, c'est la trophallaxie, donc un échange de par bouche à bouche, donc c'est ingurgité par une autre abeille, et la butineuse, hop, elle repart butiner. Et là, à l'intérieur de la ruche, les abeilles successivement vont s'échanger environ entre 15 et 20 fois ce liquide pour le transformer petit à petit en miel, le stocker dans des alvéoles, et ensuite battre des ailes pour évacuer l'eau restante, déshumidifier au maximum le miel, pour lui donner sa consistance si particulière qu'on connaît.
Donc trois étapes importantes pour faire du miel. Est-ce que toutes les abeilles font du miel? Est-ce qu'il existe d'autres insectes qui produisent également du miel?
Alors, d'autres insectes qui produisent du miel, non. Seules les abeilles produisent du miel, hein, sont totalement végétariennes. Ce sont surtout les abeilles dites sociales, celles qui vivent en colonie, qui vont fabriquer du miel. Les abeilles solitaires, qui sont les plus nombreuses en fait sur la planète en nombre d'espèces, se nourrissent surtout à partir du pollen qu'elles récoltent également dans les fleurs. Elles récoltent ce pollen-là pour nourrir leurs larves.
Et les bourdons, par exemple?
Alors les bourdons, c'est rattaché à la famille des abeilles. Ce sont des abeilles de type social qui vivent en petites colonies d'environ quelques centaines d'individus. Donc elles produisent également du miel, mais en très faible quantité. Donc c'était parfois dans les campagnes, en montagne, les enfants élevaient un petit peu des colonies de bourdons comme ça et récoltaient 2-3 cuillères de miel, mais pas de quoi en faire véritablement des pots en nombre.
Ouais, c'est pas suffisamment rentable. Et juste une colonie, une ruche d'abeilles contient à peu près combien d'individus?
Alors, une ruche bien portante peut comporter jusqu'à en moyenne 50 000 abeilles.
D'accord, oui. Alors, les apiculteurs et les scientifiques suivent depuis plusieurs années un phénomène relativement inquiétant, hein, une baisse progressive des populations d'abeilles, on peut presque parler d'un effondrement. Aussi bien les abeilles sauvages que domestiques, est-ce qu'on a des chiffres pour quantifier cette disparition ?
Alors, on n'a pas des chiffres très précis, malheureusement, malgré les études qui ont été menées. On a des nombres de ruches, par exemple, qui sont indiqués, hein, qui disparaissent. Les apiculteurs, professionnels ou amateurs, ont tiré très vite la sonnette d'alarme en voyant des pertes des fois importantes, 80% des ruchers qui disparaissent. Et donc, on a du mal à quantifier en nombre.
Pour
l'abeille domestique, hein, l'abeille mellifère. Alors ensuite, l'Institut français de l'environnement a mené pas mal d'études également sur les autres abeilles, les dites sauvages, hein, non domestiques, toutes les principalement qui sont solitaires et qui semblent encore beaucoup plus impactées que l'abeille mellifère. Alors ça, c'est dû souvent à leur mode de vie où elles récoltent bien souvent pour faire leur nid de la terre qui concentre énormément de pesticides et de polluants.
Justement, là, on parle des pesticides. Ça fait partie des causes qu'on estime responsables de la disparition des abeilles. Est-ce que c'est la seule ?
Alors, non, malheureusement, c'est pas la seule. Alors, déjà, il y a déjà presque une quinzaine d'années qu'on soupçonnait les pesticides comme responsables de la mortalité des abeilles. Alors, ces pesticides-là, à l'époque, prenaient deux formes. Hein, c'était soit les pesticides qu'on épandait, mais également les plantes génétiquement modifiées qui produisent des protéines.
Les fameuses OGM.
Voilà, les fameuses OGM qui produisent également des substances pour insecticides, hein, pour se protéger. Et on s'est aperçu que ça, effectivement, ça détruisait énormément des colonies d'abeilles et les abeilles sauvages. Malheureusement, c'est pas la seule cause. Y a toute la pollution qui rentre aussi en ligne de compte. Et puis, comme tous les êtres vivants, l'abeille, elle va être soumise à différentes maladies. Donc, il y a un virus qui s'est répandu dans les années 2000, fin des années 2000, un petit peu de partout sur la planète. Donc là, l'abeille a bien souffert par rapport à ça. Et puis aussi l'arrivée d'un grand nombre de parasites, notamment un acarien qui est arrivé d'Asie dans les années 80, c'était 85-86 en Europe, le bien nommé Varroa destructor, hein, qui s'attaque aux larves d'abeilles, hein, donc ça ressemble à une tique. Hein. Donc ça a causé énormément de dégâts. Et puis plus récemment, le frelon asiatique qui est arrivé aussi en Europe, qui arrive dans le département de l'Ain et qui s'attaque aux colonies d'abeilles. Et qui n'ont pas encore de méthode de défense efficace contre ce ravageur.
Puis dans la dernière chronique sur la génétique, on a aussi parlé des dangers de l'appauvrissement du patrimoine génétique.
Voilà.
Ça touche aussi les abeilles.
Alors effectivement, les apiculteurs, au fil du temps, ont sélectionné des races d'abeilles parce qu'elles avaient un jabot plus grand, une langue plus longue, donc potentiellement avoir plus de capacité à produire du miel. Malheureusement, en sélectionnant comme ça génétiquement des abeilles, on a aussi appauvri leur patrimoine génétique et elles sont moins aptes à se défendre contre des maladies. Donc elles sont beaucoup plus faibles qu'auparavant.
Et puis il y a aussi tout ce qui est changement du paysage.
Alors il y a aussi tout ce qu'on a fait en termes d'aménagement du territoire ces cinq dernières décennies. Je pense à l'arrachage des haies, je pense au comblement des mares, de l'eau disponible. Il faut savoir qu'une ruche en plein été va consommer énormément d'eau pour refroidir la ruche. Elle ramène de l'eau à la ruche et par évaporation, ça permet de rafraîchir la ruche parce qu'il leur faut une température d'environ 35 degrés. S'il fait trop chaud, elle risque de mourir. Donc il y a tout ça. Et puis il y a toutes les méthodes agricoles aussi où on est allé vers des monocultures. Donc elles ont moins de fleurs aussi disponibles. On va dire qu'ici, dans notre région, une fois qu'on a passé le mois de juin, que les fleurs d'acacia ont fané, les abeilles, elles n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent.
Bulle de science. Alors Jean-Philippe, quand on parle de la disparition des abeilles, il y a une expression ou une citation qui revient souvent en tête, ou que les gens disent souvent, celle qui est attribuée à Albert Einstein: si les abeilles disparaissent de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Alors rapidement, est-ce qu'elle est vraiment d'Albert Einstein et est-ce qu'elle est vraie?
Alors, ni l'une ni l'autre, c'est pas Albert Einstein qui a dit cette phrase. En fait, ça remonte à, c'est une association militante écologique belge qui a lancé ça, et qui a l'attribué à Einstein pour donner du poids à son propos.
Et c'est vrai, du coup,
est-ce qu'on a vraiment... Non, c'est pas vraiment vrai, parce que l'alimentation humaine dépend à 35% des fleurs pollinisées. Et tout le reste, en fait, c'est des fleurs, des plantes qui vont être pollinisées par le vent, donc notamment le blé, le riz, qui sont véritablement la base de l'alimentation humaine. Donc non, l'homme ne disparaîtrait pas.
Alors, l'homme ne disparaîtrait pas. Par contre, ça met quand même un petit peu en danger l'espèce humaine, mais également tout le reste de la biodiversité. Quelles sont les conséquences de l'effondrement de ces colonies d'abeilles ?
Alors là, c'est un effondrement en cascade. On va dire que s'il n'y a plus d'abeilles, beaucoup moins de pollinisation, les abeilles participent à 80% des plantes à fleurs sur la planète. Donc si elles disparaissent, on peut se dire qu'il y a 80% de la biodiversité qui va être impactée directement.
Biodiversité florale.
Impactée directement, donc moins de fruits. Si on a moins de fruits, les insectes ou les autres animaux qui se nourrissent des fruits n'auront plus rien à manger, donc ils risquent de disparaître également.
Notamment les oiseaux, par exemple.
Les oiseaux, par exemple, ceux qui se nourrissent de fruits, de graines, les granivores, les frugivores, et puis d'insectes, etc. Donc on risque d'avoir un effondrement en cascade, comme ça, de différentes espèces, et finalement un choc d'effondrement de la biodiversité.
Alors tout ça c'est relativement inquiétant. Est-ce qu'il existe néanmoins des actions à mettre en place, qui sont déjà mises en place, pour lutter notamment pour la préservation des abeilles?
Alors oui, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Donc les villes notamment participent à des opérations de zéro pesticide en ville.
Programme d'ailleurs qui est étendu aux particuliers à partir de janvier 2019, donc c'est dans un mois.
Voilà, tout à fait. Et puis également des meilleures pratiques, c'est-à-dire des fauches tardives, des fauches décalées pour laisser le maximum temps des insectes de profiter de la nature. Il y a également aussi des grandes sensibilisations qui est faites au niveau du monde agricole sur le bon emploi des pesticides. Surtout, c'est pas tant sur les deux. Enfin, déjà meilleures informations sur les dosages, et puis sur les temps où on peut épandre, c'est-à-dire les moments sans vent et puis plutôt le soir quand les abeilles sont rentrées à la ruche.
Puis on pense aussi à tout ce qui est fleurs, tout le monde peut y contribuer.
Alors tout le monde peut y contribuer, donc le meilleur moyen d'aider l'abeille, c'est de lui donner un petit peu de la nourriture, de quoi se revigorer. Donc planter des fleurs un petit peu chez soi. Alors des fleurs, pas n'importe lesquelles, faut planter des fleurs mellifères, donc du trèfle, des mélilots, de la sauge, etc. C'est toutes ces fleurs-là qui vont fournir du nectar en abondance et donc participer à la bonne santé des abeilles.
Des abeilles domestiques, mais aussi du coup les abeilles solitaires.
Et aussi les abeilles solitaires.
Ouais. Et d'ailleurs, on pense au fameux hôtel à insectes. Bonne ou mauvaise idée?
Alors, les hôtels à insectes, on va dire que ça va être un bon outil de sensibilisation pour tout ce qu'on vient d'évoquer au niveau de l'abeille. Après, le problème, c'est qu'on les fait bien souvent en bois et qu'il faut se renseigner un petit peu sur le bois qu'on utilise. Il y a des normes en France où le bois qui est vendu, il est traité avec du xylophène, bien généralement. Donc finalement, si on propose un habitat à des abeilles qui contient des substances potentiellement dangereuses pour l'abeille, ça ne va pas forcément l'aider. Donc si on veut le faire, il faudrait aller directement dans une scierie, prendre du bois brut,
du bois non traité.
Non traité pour fabriquer l'hôtel à insectes. Alors là où on peut les aider aussi, c'est, on l'a dit, en plantant des fleurs et puis en mettant de l'eau aussi à disposition, recréant des mares, replantant des haies. Tout ça va participer au bien-être de
Donc ce que chacun abeille. Peut faire à son échelle, c'est leur donner de quoi se nourrir et surtout de quoi s'hydrater.
Tout à fait.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Philippe, on l'a vu, cette thématique des abeilles, elle est très intéressante et à la fois très complexe. Si vous voulez en savoir plus sur les abeilles, il existe plein de sources d'informations. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine, le mardi 22 janvier. On parlera des origines de la vie et des différentes théories scientifiques qui tentent d'expliquer comment la vie a pu émerger sur notre planète. D'ici là, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Retrouvez toutes les chroniques d'Altech sur le site de Radio B, radio-b.fr. À bientôt !